Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au studio 621 de la Maison de Radio France pour un masque et la plume exceptionnellement sans public et consacré à la littérature avec les espions de la critique. J'ai nommé Nelly Capriélian, des inrecuptibles Livia de Lamberterie Duel, Arnaud Vivian de Regard, de Transfuge et de la revue Charles, et avec le respectable, même sans public, toujours respectable, Michel Crépu de la revue des Deux Mondes. Ça y est, je me suis encore trompé, de la NRF. Pour parler ce soir des livres de Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Jonathan Little, Nicolas Fargue, Dany Laferrière et John Le Carré. Dans le courrier de la semaine, eh bien, Amaury Mesclon nous remercie de lui avoir conseillé La Falaise des Fous de Patrick Grainville. Le terme de chef-d'œuvre n'est absolument pas galvaudé. Le souffle romanesque, les descriptions à la fois précises et sensibles des œuvres de Monet et de ses contemporains produisent un ravissement à chaque page. Depuis, d'ailleurs, Patrick Grainville, il faut le rappeler, a été élu à l'Académie française au fauteuil d'Alain Decaux. Charles Compagnie de Tourcoing n'a pas apprécié l'intervention de Monsieur Vivian à propos du livre de Kate Tempest, Écoute la ville tombée chez Rivage, qu'il prétend s'y connaître en musique et n'entende pas celle-ci, tellement originale qu'est celle de la langue de Kate Tempest. C'est triste car l'apparition de cet auteur dans le paysage littéraire et dramatique britannique est sans doute la meilleure nouvelle depuis celle de Sarah Kane. Rien à ajouter, Arnaud ?
Absolument rien.
Rien. Bonsoir Arnaud. Claire Livry, je viens de terminer la lecture du dernier tome de la saga d'Elena Ferrante et j'ai réécouté la critique du masque sur ce livre. Vous serait-il possible, s'il vous plaît, de me livrer votre analyse de l'épilogue, parce que je suis très frustré, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. En quoi l'épilogue permet-il une fin en apothéose et permet-il d'apporter une explication? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Claire Livry?
Je ne peux évidemment pas lui livrer la fin, mais je peux lui dire que dans le court épilogue de la fin, il y a un élément qui éclaire d'un jour nouveau les relations entre ces deux femmes.
Rien à ajouter, non?
Le problème, c'est que Nelly, si on est... Bon, moi, en plus, comme vous savez, je ne l'ai pas aimé, donc je ne peux pas vraiment développer. Mais là, le problème, c'est que si on va trop loin, enfin, je dis ça pour cette pauvre auditrice, on déflore complètement.
Ouais. Voilà, même si ce n'est pas un thriller une résolution.
Non, voilà, mais il y a quand même...
Non, mais c'est vrai que l'épilogue est quand même très fort.
Il est dense.
Il est dense et il est impressionnant.
Donc, il y a un sens. Ouais.
Donc, on lui conseille à cette auditrice de relire. Et enfin, plein de réactions, je n'ai gardé que deux. Mais je ne peux pas ne pas les lire à propos de Tar Ben Jeloun, dont celle-ci, il y en a deux que je vais lire, Jean-Pierre Marquet de Paris. Votre émission nous a appris que Tar Ben Jeloun, dans son livre La Punition, chez Gallimard, avait dit du mal du roi Hassan II. Or, en 75, Hassan II, désireux de s'approprier les phosphates du Sahara occidental, encore possession de l'Espagne, avait lancé, ça on le sait, sur ce territoire une armée de 350 000 chômeurs qu'il avait fanatisé avec la consigne d'occuper cette terre. L'opération marocaine réussit. Quelques années plus tard, à l'initiative de Maurice Druon, un livre collectif fut écrit, La Marche Verte, qui faisait un éloge vibrant de Hassan II. Et l'un de ses participants était Tar Ben Jeloun, qui, avec trois pages très élogieuses sur celui que Jean-Pierre Marquet appelle le tyran. C'est fou ce qu'on change en vieillissant. Ou encore User Freak, qui s'étonne d'avoir entendu Arnaud parler du courage de Tar Ben Jelloun à l'occasion de la sortie donc d'une punition. Il y a quelques années, Tar Ben Jelloun était l'invité de la mémoire en chantant sur France Culture. François-Régis Barbry lui avait demandé s'il ne pouvait pas intervenir auprès du roi du Maroc, Hassan II donc à l'époque, dans l'espoir d'une grâce pour Abraham Serfati. Et Ben Jelloun lui a répondu qu'il ne connaissait rien au Maroc et que la personne du roi était sacrée. Et j'ai eu d'autres exemples que m'ont envoyé des auditeurs. Apparemment, le courage de Ben Jelloun dans la punition est quand même très circonstancié. Arnaud ?
Il l'aura quand même fait peut-être tardivement. Mais le fait est que ça reste, je pense, un livre courageux, qui est sans doute en contradiction avec tout le reste de son œuvre et de ses actes au préalable. Alors, c'est toujours la même chose, hein, et peut-être qu'il faut mieux finir bien que finir mal. Voilà.
Et on commence avec Jonathan Little, 12 ans après Les Bienveillantes, prix Goncourt, grand prix de l'Académie française, près de 900 000 exemplaires vendus. Le franco-américain, donc, qui vit d'ailleurs à Barcelone, hein, revient donc au roman. Et ces dernières années, il avait surtout publié de brefs essais, notamment sur Francis Bacon ou sur le nazi belge Léon de Grelle. Il avait fait des reportages et un documentaire sur les enfants soldats en Ouganda qui a été projeté à Cannes. Bref, si le livre s'intitule « Une vieille histoire, nouvelle version » chez Gallimard, c'est qu'il s'agit en effet d'une version augmentée d'un texte paru en 2012, un roman labyrinthique, onirique en 7 chapitres, qui échappe totalement au résumé. En tout cas, moi, je le ferai pas. Donc, je laisse à Little le soin de décrire le dispositif qui emprunte un peu à Alphaville de Godard, puisque un narrateur sort d'une piscine, se change, se met à courir dans un couloir gris, découvre des portes qui s'ouvrent sur des territoires où se jouent et se rejouent les rapports humains les plus essentiels. Fin de citation. Comprenait la guerre et la sexualité que Little décrit de manière à la fois obsessionnelle, répétitive, comme dans La Ronde de Schnitzler, même si on pense plutôt à Lynch, à Rob Grier, et parfois d'ailleurs aussi au Marquis de Sade. Est-ce que vous êtes sorti indemne de ce roman, Arnaud ?
J'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que c'est pas du tout un livre expérimental, c'est un livre conceptuel qui, d'une certaine manière, peut rappeler ce que tu as dit, hein, Alphaville. J'ai pensé aussi à un film que j'adore qui s'appelle The Swimmer, de Frank Perry et Sidney Pollack. Oui, avec Burt Lancaster, qui est l'histoire d'un type qui passe de piscine en piscine, qui est un film des années 70. Et je pense que... Alors, pour le lecteur, il y a un jeu immédiat. C'est d'ailleurs, moi, je trouve un livre assez drôle. Moi, j'ai ri en le lisant, souvent. Non, c'est vrai.
Alors, moi, j'ai pensé à beaucoup de choses, mais l'humour m'a un peu échappé.
Si, si, l'humour, parce que, en fait, donc, il y a un système, c'est, donc, cette fois, non pas la même histoire, mais cette fois, une histoire qui joue avec des invariants. Il y a un côté presque oulipien dans la démarche, c'est-à-dire qu'il y a des invariants qui reviennent toujours. Alors, donc il sort de la piscine, il y a des couloirs un peu partout, mais il y a aussi toujours une histoire de coupure d'électricité qui est extrêmement
drôle. Qui revient de manière sérielle.
Oui, et Mozart, des pommes, des fourmis. Il y a comme ça un certain nombre d'éléments, et puis donc à chaque fois une scène de sexe, alors qui est quand même, on savait que
c'est Jonathan Little avait prouvé. C'est du brûlant. C'est du très brûlant.
Ah oui. Mais
enfin, c'est graphique, quoi.
Un écrivain est jugé à sa manière d'écrire des scènes de sexe, on peut dire que Jonathan Little est un grand écrivain, à mon avis. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des scènes de sexe. Et en plus, je veux dire, de tous les genres, hein, et même transgenre, s'il le faut.
D'ailleurs, la personne change de sexe.
Oui, change de genre, avec toujours donc un petit garçon, voilà. Et puis des scènes de guerre qui sont aussi d'une cruauté. Il y a un côté évidemment sadien, hein, dans le livre qui est là, mais encore une fois avec une drôlerie et comment dire, le côté conceptuel qui fait que le lecteur est pris quand même dans une aventure répétitive et encore une fois répétitive et différente à chaque fois, fait que il y a quelque chose d'hypnotique, de fascinant, moi qui m'a rappelé finalement des écrivains, un écrivain notamment français qui est Marshall Odenko, qui dans les années 70-80, qui est aussi le scénariste
qui
de
était publié chez Bourgois
et chez P.O.
Très, très porté, si j'ose dire, sur le sur la sexualité oui. Et la description de la sexualité.
Et en même temps avec ce côté fantastique qu'on retrouve chez
Le roi
des
fées,
Jonathan.
Dans mon souvenir.
Le roi des fées, exactement. Oui. Histoire du vivant Lannon, qui sont des livres comme ça qui étaient un peu conceptuels autour de la sexualité et de la violence.
Olivia.
Moi, j'ai adoré Les Bienveillantes et j'adore les interviews de Jonathan Little parce qu'il est toujours extrêmement désagréable. Il dit ça sert à rien de donner des interviews. On a envie de lui dire pourquoi tu les donnes. Mais peu importe.
Il a donné notamment Anélie dans Les Inrocks.
Il est odieux.
Et une grande dans l'Obs aussi.
J'aime bien sa posture comme ça d'écrivain odieux. J'ai commencé le livre qui commence de manière assez forte. Il y a une scène primitive qu'il y a dans beaucoup d'autres livres, hein, avec un couple qui fait l'amour et tout d'un coup, il y a le visage pointu d'un petit garçon qui les regarde. Je trouvais que c'était assez fort, j'ai continué. Scène de sexe, alors là, je dois dire que tu dis que c'est un grand écrivain parce qu'il fait bien des scènes de sexe. Moi, ça ne m'a procuré absolument ni admiration, ni émotion, ni rien. Sade peut te donner envie de vomir, Genet peut te bouleverser, là, rien. J'avais compris, malheureusement, qu'il avait déjà écrit cette histoire deux fois, mais là, il fallait la lire sept fois. Très bien, tout ce que tu dis, la poignée de porte, les pommes, le couvre-lit doré et avec,
Mozart.
Avec des herbes dessus, très beau. Ça me faisait penser au début.
Les sardines à l'huile aussi. Il y a aussi
les sardines à l'huile. Oui. Ça me faisait penser, parce que c'est très cinématographique en fait, au dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut, où t'as Tom Cruise qui marche dans la rue, il comprend rien à ce qui lui arrive et il ouvre des portes et c'est une orgie et c'est voilà.
C'est adapté d'une nouvelle de Schnitzer.
De Schnitzer.
Qui est d'ailleurs.
Encore une fois, la ronde, on y pense beaucoup.
On y pense.
Mais quand j'ai attaqué la troisième version de l'histoire, honnêtement, moi j'étais une poule devant un couteau. Hein. Je ne comprends pas.
Fais pas ta blonde là.
Je fais pas ma blonde, je comprends pas ce qu'il veut nous dire, ça me bouleverse pas, ça m'émeut pas, ça me touche pas, je sais pas ce qu'il veut faire.
Il veut dire des choses quand même.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Que le monde est envahi par les corps. Ok, ça veut dire quoi? Je suis exactement dans la même position que dans une exposition avec une vidéo contemporaine. Vous savez, ces installations, vous avez une vidéo et à laquelle je ne comprends rien. Donc, je fais ma blonde.
Sors de ce corps.
C'est pas que je ne fais ma blonde, je suis blonde face à Jonathan Little. Je comprends en plus tout ce qu'il y a de Genet, de tous ses emprunts, mais qu'est-ce qu'il y a de Little là-dedans? Je ne le sais pas, je ne le comprends pas.
Oh bah
je suis blonde.
On voit bien le rapport avec les bienveillantes, notamment dans les scènes de
homosexualité. On est dans une brune qui rêverait d'être blond platine. Enfin bon, vous ne le répétez à personne.
C'est bien comme ça.
Non, mais pour moi, c'est le noyau dur de Little. Je pense que Les Bienveillantes, moi, j'avais eu quand même des réserves. C'est-à-dire que je n'aimais pas cette façon de recaser tout ce qu'il avait appris l'histoire.
Je te rappelle que ton journal Les Inrocks avait eu des réserves sur Les Bienveillantes.
Oui, qui à une époque où j'étais même...
Et ne pouvait pas imaginer qu'un jour...
Donc je me rappelle bien, c'est le moment qui les avait commandé les papiers.
La une serait faite sur un livre de
Jonathan
Little. Mais
là, j'étais sidérée. Je trouve qu'on est vraiment dans de la littérature. Et moi qui ai un problème justement avec Elena Ferrante, comme vous le savez, je trouve cette espèce de retour du sorte de réalisme social qui commence à m'ennuyer. Enfin, il y a des trucs très réussis, il y a des trucs moins réussi, tout ça, mais ce qui devient une espèce de norme, je trouve que là, le pulvériser cette tendance, enfin, aller à côté de la tendance et faire autre chose qui en effet rappelle plutôt des... En effet, plutôt Sade. Moi, j'aime bien, Jérôme, quand tu parles de Rob Grillat, parce que moi, ça m'a fait penser à la reprise. En effet, c'est marrant, parce que quand je l'interviewais, je lui ai parlé de Rob Grillat, il m'a dit, ah non, je n'ai jamais lu. S'il y a un auteur que je n'ai jamais lu, c'est Rob Grillat. Alors que pour moi, la reprise est vraiment partout.
Non, mais en plus,
il est très agréable, il est très sympathique. Non, moi, je trouve que c'est le noyau dur de Little, débarrassé de devoir raconter, de faire un grand roman historique. Voilà.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Dans ce truc-là, ça veut dire, bah, comme toute œuvre littéraire, il n'y a pas qu'un seul sens, il y a plusieurs sens. Moi, pour moi, il arrive avec ce roman, comme disait Arnaud, conceptuel, il arrive à être encore plus réaliste sur l'état du monde et sur le monde. Il y a des répétitions parce que notre psyché est répétitive, parce qu'on est des êtres de répétition, parce que la névrose est répétitive, parce que l'envie de tuer, l'envie de faire l'amour, que l'envie de torturer, de dominer, d'être dominé, c'est quelque chose qui est répétitif, qui fonde le monde. Et là, je pense que ça vient aussi d'une expérience qu'il a, où il a travaillé dans des ONG. Il était où en Afrique? Il a été sur des
guerres.
Il a fait un film sur les enfants soldats.
Qui était un film très fort.
Il a travaillé sur le nazisme. Enfin,
Tout,
c'est ça que j'aime bien
ensuite, c'est comment il, sur laquelle il a travaillé sur le terrain.
Le travail documentaire qu'il a pu faire
et là,
dans une pure fiction.
Il en fait une œuvre littéraire qui est, je trouve, d'une force inouïe.
Ce que j'aime, moi, c'est qu'on parle de ce livre-là en éradiquant complètement les bienveillantes. Je trouve que c'est...
Non, mais quand même, la problématique de la sexualité, la problématique sadienne, elle était déjà dans les bienveillantes.
Merci de le rappeler. Michel ?
Non, mais alors écoutez...
Oui, on Godard, écoute. On t'écoute.
Godard, Alphaville de Godard à côté, c'est un film de KPDP. Enfin, ce livre est d'un ennui profond. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Je le dis d'autant plus que j'ai été un défenseur dès la première heure des bienveillantes. Et là, c'est sidérant. Il n'y a pas d'enjeu. Tous les tableaux de sexe sont bons pour le musée d'Orsay, au rayon pompier. C'est d'une
oh non.
D'un kitsch. Il n'arrête pas de regarder l'amour.
Ah, il se regarde tout le temps.
Ce qui est très frappant, c'est que
la scène de gangbang là.
Les scènes de guerre sont très bonnes. Et les scènes de sexe sont très mauvaises. Elles sont ennuyeuses. Et ce livre est sans enjeu. J'aimerais savoir quel enjeu est porté par ce livre. Je ne l'ai pas lu dans les interviews que Little a donné, et je ne l'ai surtout pas senti et découvert à la lecture de ce livre qui m'a paru vraiment, par rapport aux bienveillantes, mais très en deçà. Il y a vraiment un problème de Little avec la littérature moderne, celle qu'on appelle la littérature moderne, qui va de Blanchot à Lévinas, en passant par les auteurs.
Quel problème ?
Mais parce qu'il est dans un mimétisme par rapport à ça. Vous parlez de Rob Grillet, des gommes, etc. Mais Rob Grillet, c'était il y a un quart de siècle. Et là, on a quelqu'un qui n'arrive pas à assimiler ça et qui est dans une répétition. Pour le coup, là, c'est la psyché répétitive, mais alors vraiment...
Bah oui, mais c'est son propos. Mais c'est pas comme s'il le faisait, pas exprès. Enfin, c'est ce qu'il veut.
Il n'y arrive pas.
Arnaud et Nelly. Alors je le retrouve pas dans le livre.
Bon, on l'a pas.
Oui. C'est triste. On ne peut pas aimer.
On a passé beaucoup de temps.
On n'a pas
aimé ce livre.
Je rappelle qu'il s'agit d'une vieille histoire. Nouvelle version, parce qu'il y a une vieille histoire chez Fata Morgana, vous le savez.
Oui, c'est l'histoire du monde,
une vieille histoire, nouvelle version, et c'est chez Gallimard et signé Jonathan Little. 6 mois après, précisément, avoir publié chez Gallimard un roman qui s'appelait Alma, où il renouait avec ses origines mauriciennes, Jean-Marie Gustave Le Clézio est déjà de retour, cette fois avec Bitna, sous le ciel de Séoul, chez Stock. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, je disais que ma psyché était atteinte par ce Bitna, ça me faisait drôle.
Je te laisse.
Qu'on sort du livre de Little.
La responsabilité de tes propos.
C'est bien la peine de dire du mal de Jonathan Little.
Bitna sous le ciel de Séoul, c'est chez Stock.
On a le droit de se contredire.
Et c'est cette fois en Corée du Sud qu'il nous emmène. D'ailleurs, Corée où même Olivia a accompagné le prix Nobel. Tu n'es pas la seule. Hein.
Il y a eu quelques... Merci de préciser. De m'amoindrir rire tout de suite.
Non, mais c'est pas gentil.
Non, mais j'ai lu quelques reportages cette semaine.
C'est un voyage de groupe, disons.
J'étais en trois.
Et il raconte, Le Clézio, comment Bitna, une étudiante pauvre de 18 ans, imagine des comptes pour maintenir en vie une autre femme jeune qui, elle, est condamnée par une maladie incurable. Et dans un de ces 5 comptes, il y a un ancien policier qui est devenu gardien d'immeuble et qui élève des pigeons voyageurs qui franchissent la frontière et qui porte des messages à sa famille de Corée du Nord. Peut-être le conte le plus emblématique de ce livre, dont l'éditeur dit que c'est une fable urbaine où la ville de Séoul est la troisième héroïne. Séoul, donc, je le rappelle, où Le Clézio a enseigné la littérature française à la fac et où il continue de beaucoup séjourner. Ça m'a fait penser à une sorte de conte des mille et une nuits, mais coréen. Nelly.
Bah écoute, moi, ça m'a fait penser à Rob Grillet, ça m'a fait penser à Marguerite Grillet. Duras.
À Duras.
Ça m'a fait penser à Sade. Ça m'a fait penser à qui encore, à Little.
Je te fais porter tout de suite.
Non, franchement, là, c'est pas possible. Enfin, l'autre.
Qu'est-ce qui est pas possible?
Moi, je me suis dit, Little, il y a quasiment trop de références. Et vous avez dit Olivia et Michel, c'était quasiment voilà, il avait mal digéré tout ça. Là, il faudrait qu'il relise les grands écrivains français. Enfin, c'est pas possible. C'est rien du tout, ce livre. Mais rien du tout. Voilà. Et je trouve que venant d'un prix Nobel de littérature, c'est fainéant. ans, c'est enfantin, ou alors c'est de la littérature pour adolescents. Mais ça n'a pas à être vendu dans une collection pour adultes. Je pense que c'est pas un livre pour adultes, c'est pas écrit pour adultes.
Tu penses que c'est un livre pour les enfants?
Moi, je pense que c'est un livre pour les enfants, Bitna.
C'est ton dernier mot?
Bah, non, parce que je pourrais développer, mais j'ai pas envie d'être méchante.
C'est pour savoir.
Enfin, je trouve que c'est faible, enfin. Je trouve que c'est plein de bons sentiments, ça tombe à plat, c'est mignon, enfin, c'est, voilà, ce serait un premier roman. D'une fille de 18 ans, je trouve, elle sera géniale, enfin, ou 16 ans, mais là, c'est pas possible. Enfin, il est quand même prix Nobel de littérature, le Clésio, c'est pas possible d'écrire ça. Enfin, on compare avec Modiano, par exemple, c'est deux pointures totalement. Enfin, voilà, c'est.
Michel?
Je me demande pourquoi le Clésio n'a pas. Peut-être qu'y a-t-il pensé faire un livre qui aurait été Impression de Séoul. Qui aurait été une sorte de journal de bord de son séjour en Corée, et où il aurait raconté, fait des portraits et décrit la vie d'un pays où il y a peu de chances que je me rende jamais un jour, mais après tout, on ne sait jamais.
Voilà. Peut être invité. Tu peux très bien être traduit demain en Corée.
C'est vrai. C'est vrai. Je dois te tenir compte de ça. Hein et au lieu de ça, j'imagine qu'il a voulu essayer d'imaginer une sorte de conte, en effet. Tel qu'on le lit là et qu'on le découvre, mais qui est très pâle. Enfin, c'est quand on connaît les livres de Luclésio qu'on aime, les livres africains, le Nouveau Mexique, enfin les Mayas, l'intensité que Luclésio a pu donner à ces récits-là. Là, on est dans quelque chose d'une espèce d'aquarelle. Qui ne va pas, qui ne prend pas. Je le dis avec beaucoup de respect pour l'écrivain Clésio, évidemment, évidemment.
Olivia.
Oui, mais tu peux pas dire, t'aurais préféré qu'il fasse des impressions de voyage. Moi, j'aurais préféré que Jonathan Little, il écrive un bon polar, hein, dans ce cas-là. C'est un drôle d'argument.
J'ai trouvé que
c'était très beau, que c'était absolument pas niais. Je trouve au contraire que c'est un livre assez tragique. C'est un livre sur l'envers du rêve coréen qui est servi à longueur de journaux dans les articles, et notamment à propos des JO. J'aime beaucoup l'histoire de la petite chanteuse, hein, puisqu'on a eu l'exemple il y a quelque temps d'un chanteur coréen qui a eu un succès planétaire. Et là, je trouve que l'histoire de cette petite gamine qui est violée par le pasteur, qui évidemment ne peut rien en dire, et qui va avoir une existence absolument tragique, je trouve ça tout sauf mièvre. Je trouve que l'héroïne, son existence, est tout sauf pâle. Que cette fille qui est rejetée par sa famille, qui doit se battre pour survivre en racontant des histoires à une autre fille qui, elle, se bat pour survivre contre la maladie. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien du tout de mièvre là-dedans. Je trouve que c'est un très beau...
On a un peu déjà vu quand même, hein, cette histoire.
Bah écoute, moi j'étais pas spécialiste de la Corée, j'étais pas spécialiste de la condition coréenne, j'étais pas spécialiste de Séoul. Bon, je suis restée 4 jours, hein. Mais je trouve que le portrait qu'il fait de la ville, notamment il y a des promenades en métro aérien, je trouve qu'elles sont très belles. Cette espèce de ville insaisissable, qui est ni moche, ni laide, ni moderne. Non, pas très, non. Pas très. Moi je trouve que c'est un très beau livre.
Arnaud.
Limpide.
C'est-à-dire, si j'étais subclaquant, comme l'a dit Salomé, qui est un prénom d'ailleurs pas très coréen pour le coup, tant
bien que.
Elle explique pourquoi. C'est pas son vrai nom.
Et là-bas, ils ont tous des prénoms coréens et ils veulent qu'on les appelle Jennifer et.
Si j'étais subclaquant,
ils veulent qu'on les appelle Kevin.
Franchement, que ça soit Jonathan Little qui me raconte des histoires plutôt que les histoires de Bitna. Parce que, franchement. Mièvre, ça ne suffit pas. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi le Clésio, qui a quand même publié par ailleurs un roman il y a 4 mois, il a dépassé son quota de production autorisé par Bruxelles à mon avis, mais bon, pourquoi il a publié ce livre. Et j'ai cru comprendre à un moment quand il explique que Bitna, par ailleurs, travaille à l'université de Séoul, où elle s'occupe d'un cours de français élémentaire. Et il me semble que ce livre est écrit en français élémentaire. C'est une des choses, d'ailleurs, qui, par rapport au précédent livre, hein, qui était magnifique au niveau du langage, travaillant sur ses origines. En fait, là, c'est vraiment des phrases élémentaires. Et je pense que ce livre est écrit pour les étudiants et les étudiantes coréen, coréenne, de toute évidence, de manière à ce qu'ils puissent apprendre le français. C'est un manuel, finalement,
un manuel
pour apprendre
français,
le français. Ouais. Et donc, les clichés sont nécessaires, parce que si l'histoire est trop passionnante, vous ne pouvez pas apprendre la langue.
Donc, en fait,
je crois que ce livre ne nous est absolument pas destiné.
Tout à fait, ouais.
Il est destiné au marché coréen, qui est très important. Et je crois que...
Au marché scolaire. Quoi.
Oui, au marché scolaire, donc en français, évidemment. Non, mais... Donc, c'est un manuel de français pour les Coréens. Et les Coréens.
Ah, mais ça change tout, du coup, je comprends mieux.
Oui, oui,
mais
moi, je crois
que préciser que Jean-Marie Le Clézio a 78 ans, il est prix Nobel, et là, il
fait parler
une jeune fille qui n'a pas d'éducation et qui a 18 ans. Il va évidemment pas la faire parler comme il faisait parler ses personnages.
Oui, mais enfin,
mais il n'y a pas qu'elle qui parle.
Il n'y a pas qu'elle.
Ah ben, il y a quelle qui parle. C'est elle qui raconte 90% des histoires du livre.
Même la description de Séoul, parce que, là, je suis totalement d'accord avec Michel, c'est-à-dire que c'est par ailleurs, ça a été le grand peintre de l'étranger, des pays étrangers, par exemple, des États-Unis, du Mexique, tu l'as rappelé, mais je me souviens, quand même, Les Géants, c'est un grand livre sur les États-Unis, enfin,
c'est très surprenant.
On ne retrouve pas, là, il y a une espèce d'infantilisme dans la phrase même, qui fait que c'est très étonnant, ouais. On est quand même...
Parenthèse, il y a une attirance de la Corée, des deux Corées d'ailleurs, Nord-Sud, pour les écrivains français, qui est assez incroyable.
Oui, mais alors...
J'ai lu un livre d'Arthur Dreyfus sur la Corée, il y a quelques mois. Il va y avoir le livre de Yann Moix qui est sur celle du Nord et pas celle du Sud.
Ouais.
Ça n'arrête pas, hein. La littérature française fréquente la Corée.
Ouais. Oui, c'est pas un gage de qualité pour un livre.
Les écrivains français sont très appréciés en Corée,
Bitna,
où il y a des librairies dingues.
Il a marché, il est sorti là-bas, sur le marché coréen
Il a été traduit en Corée, mais je ne sais pas s'il est sorti encore.
Tu as pu regarder les deux traductions?
Il y a quelques fautes, page 49,
en coréen.
Mais je lui en
Bitna
tiens
sous
pas
le ciel
rigueur.
De Séoul, c'est chez Stock et c'est de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Je ne suis pas une héroïne chez POL, un roman de Nicolas Fargue, l'auteur de One Man Show, et de beaux rôles qui, pour la première fois, se transforment en femme. Oui, je crois que c'est la première fois, ou du moins son narrateur évidemment, puisque Gérald est une jeune parisienne de 30 ans d'origine camerounaise, qui a fait un mémoire à la Sorbonne sur James Baldwin et sur Toni Morrison. Elle en a ras-le-bol d'inspirer spontanément les mots tigresse, lionne ou panthère. Elle juge les Blancs d'ailleurs trop condescendants. A contrario, les Africains lui reprochent de vouloir se blanchir. Le roman raconte les déboires amoureux de Gérald, son voyage en Nouvelle-Zélande, où elle suivait Pierce, mais où elle tombe amoureuse d'Adrien, qui est un documentariste français. Bref, est-ce que la transformation du beau Nicolas Fargue en femme vous a convaincu, Olivia?
Oui, elle m'a beaucoup convaincue, parce que d'abord...
Elle t'a convaincue ou il t'a convaincue?
Les deux, lui et elle. Je trouve qu'il y a toujours une sorte d'amertume dans les livres de Nicolas Fargue, et qui devient parfois... agaçante et qui affadit son propos. Et je trouve que pour la première fois, il s'en est débarrassé. C'est un livre assez caustique, mais qui n'est pas aigre ou perfide. Je trouve que le portrait de la fille est vraiment réussi et me semble tout à fait emblématique de beaucoup de filles d'aujourd'hui que je connais. Que la fille qui drague un mec dans le métro, qui enlève pas ses écouteurs pour lui répondre, qui plie son pantalon avant de faire l'amour la première fois et qui se rue sur ses messages après, évidemment, faut fuir. Hein. Et la fille, elle reste et après, elle est blessée quand il la quitte. Donc je trouve que là, il y a un ressort qui me semble très juste. Et après, je trouve que c'est un livre vraiment passionnant sur ce que c'est que d'être une jeune femme noire aujourd'hui dans la société française.
Enfin, et pas que française d'ailleurs, puisque ça.
Oui,
mais
voyage, ça,
quand elle part, c'est là où c'est intéressant.
Oui.
Elle va se retrouver un cliché en Nouvelle-Zélande.
Voilà. Dans une société qui ne loue que la beauté blanche, et elle donne plein d'exemples qui sont vraiment percutants, aussi bien de la peau laiteuse des femmes que des cols en chair. Dans une société où finalement, chaque fois qu'on est gêné avec elle ou qu'on ne sait pas quoi lui dire, on lui dit « Oh, vous avez de beaux cheveux !» Et vos cheveux, ils sont vrais, ce qui est quand même un truc absolument terrible.
Raciste.
Elle dit très bien ce que c'est aussi, d'ailleurs, tu l'as un peu dit, mais qu'elle est trop blanche pour sa famille et qu'une jeune fille qui abandonne sa mère pour partir vivre un amour à l'autre bout du monde, ça se fait pas. C'est les blanches qui font ça, mais pas les noires. Je trouve qu'il y a une réflexion sur les mots très intéressante, l'usage de l'anglais, l'usage des mots pour parler des blancs, des noirs. Est-ce qu'on dit un black, mais est-ce qu'on dit un white? Je trouve trouve que c'est un livre vraiment très intéressant et très subtil.
Je pose la même question à Nelly. Donc, Farc transformée en femme, c'est crédible, c'est...
Ah oui, qui garde sa perruque.
Oui, mais c'est important.
Qui garde sa perruque.
C'est pas évident, hein.
Non, c'est pas évident. Et là, je trouve qu'il réussit complètement. C'est vrai que les passages que citait Olivia, la première scène où elle drague un mec dans le métro et le type est atroce et pourtant elle s'y accroche de façon masochiste, tout ça. Bon, je pense qu'on a toutes, à, je sais pas, 25 ans, 30 ans, eu ce genre d'expérience.
Voire plus.
Pas dans le métro, voire parfois plus, Olivia. Non, mais oui. Enfin, je pense qu'on s'y retrouve dans, voilà, la femme d'aujourd'hui peut se retrouver dans cette espèce de tiraillement entre la raison, le masochisme, le manque de repères, pas trop savoir, etc. Et moi, j'aurais peut-être préféré qu'ils s'en tiennent un peu à ça, plutôt que toute la Nouvelle-Zélande, tout ça, c'était pas vraiment ma tasse de thé, quoi. Moi, juste le portrait de cette fille me ravissait. Par contre, c'est vrai que j'avais, en préparant un peu l'émission, je me disais, oui, et puis il faudrait que je dise que c'est tellement vrai que les jeunes filles noires ou jeunes femmes noires doivent se sentir comme ça dans la société française, rejetées ou même ailleurs, confrontées au racisme, tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais donc, je suis une critique blanche qui va m'exprimer pour une jeune fille noire, qui est déjà décrite, enfin, de l'intérieur, par un écrivain de 40 ans blanc, un homme blanc. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, il faut des critiques noires, il faut des écrivains noirs français qui s'expriment en leur nom. Enfin, il y a ça aux États-Unis, de plus en plus, avec, comment elle s'appelait, Britt Bennett, je crois qu'il était chez Autrement. Tanashi Coates, Chimamanda Ngozi Adichie. Enfin, voilà. Là, il faut que les journaux leur ouvrent aussi leur porte, parce que là, je trouve que la situation est quand même un peu cocasse de devoir dire s'il a raison ou pas, alors qu'on n'en sait rien, finalement. On est blanc.
Arnaud.
Oui, je suis totalement d'accord avec Nelly, et notamment sur le point qu'elle a développé, c'est-à-dire c'est moins intéressant dès que ça parle de la Nouvelle-Zélande. Il se trouve que ça fait, totalement par hasard, en un mois, j'ai lu deux romans qui ont été écrits dans cette résidence d'écriture à Wellington, qui est visiblement très courue.
Oui, qui l'a fait, en fait, Nicolas Farg, et il remercie
voilà,
à la fin.
Voilà,
fait,
par descente, oui. Je parlerai pas du premier livre que j'ai lu, celui de Nicolas Farg est bien meilleur. Non, franchement, ça valait pas le coup. C'est ce qui est intéressant vraiment.
Surtout, ça paraît artificiel dans le roman.
Ah oui, puis le côté TripAdvisor, je vais sur les lieux où Jane Campion a tourné sa série télévisée. Oui. Là, c'est juste pas supportable.
Raconte de Paris, de la France,
ou alors qu'il donne
plus
des notes, des numéros de téléphone, des notes d'hôtel, quoi. Là, qu'on sache exactement. Parce que ça, c'est pas bon et ça ne sert à rien. On voit bien que c'est juste la résidence, le fait qu'il ait fait cette résidence d'écriture à Wellington, qui fait qu'il parle de la Nouvelle-Zélande.
Elle serait restée
en France, ça aurait été aussi bien. Ce qui est fort dans le projet, évidemment, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que des origines noires françaises, il y en a eu plein, évidemment, c'est pas ça qui manque. Marie-Anne Diaye a beaucoup écrit sur le sujet, mais en général, elle n'était pas cultivée, elle n'avait pas fait d'études, et là, c'est ça qui est fort. C'est ce rapport-là qui fait, là, je crois que c'est vraiment très
original.
Elle
sort de la Sorbonne, hein.
Oui, voilà, c'est la première fois. Alors, évidemment, elle a un job à la con. Ce qu'on appelle aujourd'hui un job à la con, hein, que selon la manière dont David Graeber a parlé de ses boulots. Elle travaille pour un institut de sondage, donc elle a envie de partir en Nouvelle-Zélande, on la comprend. Mais il y avait ce moment-là, au début, là, effectivement, tout ce qu'il raconte sur la perception, sur le racisme, comment dire, inhérent à la société française. Implicite, presque inconscient.
Une espèce d'impensée raciste.
Voilà.
C'est vrai.
Impensée raciste, d'ailleurs, qui se retrouve immédiatement lorsqu'elle arrive en Nouvelle-Zélande. Ils sont pas différents. Voilà. Il y avait quelque chose de fort, et puis voilà, ça se perd un petit peu après dans un roman à l'eau de rose postmoderne.
Son procédé, c'est un peu comme Philippe Roth dans La Tâche, c'est-à-dire qu'on ne sait pas au départ.
Ouais. Michel,
oui, mais ça ne dure pas longtemps.
Et ce qui est bien, c'est la fin. Parce que je trouve que la fin sauve la deuxième partie.
Je voudrais que Michel s'exprime.
Je suis d'accord, évidemment, avec tout ce qui vient d'être dit. C'est un peu ça mon problème. C'est-à-dire que je trouve que c'est un livre un peu irréprochable, esthétiquement,
moralement,
philosophiquement, touristiquement.
Enfin, il est reprochable sur un seul point, je trouve, c'est le titre que je trouve très mauvais. Franchement, il y avait mieux à trouver que je ne suis pas une héroïne. Mais bon, fin de parenthèse.
Ça ne m'étonne pas, je veux dire que Farg nous a habitués déjà depuis longtemps à une finesse, un art d'écrire, j'allais dire, qui tombe bien, qui tout ça est absolument impeccable. Enfin, il y a pas de défaut, il y a pas de problème, de contradiction, Et donc, ça m'ennuie un peu. Je suis tout à fait d'accord.
T'aurais voulu des défauts, en fait, quelques défauts.
J'aurais voulu des défauts, oui. J'aurais voulu quelque chose.
C'est un compliment magnifique.
Oui, on peut le considérer comme une forme de compliment, oui, peut-être.
Je ne suis pas une héroïne chez POL, c'est Nicolas Fargue. À l'heure où Poutine et Theresa May croisent le fer, John Le Carré, 86 ans, ancien agent du renseignement britannique, pendant la guerre froide, va redevenir très tendance. Car lui, il ne désarme pas. 2 ans après la sortie en France de ses mémoires, Le Tunnel aux Pigeons, qui était un peu décevant, je trouve.
Oh, les mémoires, c'était pas bon. Hein.
C'était décevant.
Ah, moi, j'ai adoré les mémoires. Enfin, qu'est-ce que vous racontez?
Non, mais c'était génial. Il disait pas tout.
Ah oui.
Bon, ah bah oui, mais c'est important.
On dit jamais tout.
Est-ce qu'on peut tout dire?
Surtout quand on était espion.
Non, mais c'était pas très drôle. C'était pas très drôle.
2 ans après, Le Tunnel aux Pigeons, l'auteur de La Taupe publie son 24e roman, L'Héritage des Espions, traduit au seuil par Isabelle Perrin. Peter Gilliam, un vieil espion dont le fameux George Smiley était le mentor et qui passait sa retraite en Bretagne, doit rendre des comptes. Il est rappelé à Londres par son ex-employeur pour justifier une opération visant à déstabiliser la Stasi durant la guerre froide, évidemment. Expliquer pourquoi des innocents ont été sacrifiés au nom de la raison d'État et comment, en 61, l'espion britannique Alec Lehamas et son ami Liz Gold ont été trouvés morts au pied du mur de Berlin. C'est aussi l'occasion pour, évidemment, Le Clésio, de rendre un dernier hommage à son héros récurrent, Smiley, officier du renseignement du cirque, qu'on retrouve notamment dans L'Appel du Mort, dans La Taupe, dans Comme un collégien ou encore dans Légende Smiley, qui aujourd'hui porte un Panama. Michel, c'est un livre pour toi, ça?
Oui, en effet. C'est un chef-d'œuvre. Non, c'est un grand, grand livre. J'ai pris un plaisir fou à lire ça. Que dire? Que Le Carré s'avère un très grand écrivain européen. Cette histoire qui finalement fait la boucle un peu avec ses débuts. L'espion qui venait du froid. Et toute l'expérience fondatrice, initiatique du mur, de l'espionnage, etc. Là, on le retrouve en finale, d'une certaine manière. C'est l'opéra qui se termine. Et je trouve ça vraiment très, très fort. Très, très fort, parce que c'est faire du motif de l'espionnage un mode de connaissance. L'espionnage n'est pas un genre ou une sorte de sous-catégorie du polar ou de, on va dire, roman d'espionnage. Non, l'espion et l'espionnage sont des modes de connaissance de la réalité historique. Et s'agissant de l'Europe et s'agissant de tout ce qui a concerné le mur, la guerre froide, Le Carré est vraiment quelqu'un qui s'avère un des très grands écrivains européens.
Moi, j'ai le sentiment, Arnaud, de plus trouver Le Carré dans ce livre-là que dans ses mémoires. C'est-à-dire se souvenant mieux de l'homme qu'il a été dans ce roman que dans ses mémoires.
Les derniers romans de John Le Carré étaient tous formidables. Ouais. Les mémoires, c'était très décevant. Donc j'angoissais parce que je me disais, est-ce qu'il a perdu la main pour aller vite? Donc il est quand même âgé.
Et là, 86 ans.
Impressionnant.
Ouais. Le personnage,
y compris les dialogues,
principal, oui. Ce Breton qui est rappelé en Angleterre.
C'est ce qui manque à Little, hein, je m'excuse, hein, mais franchement.
Oh, mais ça, on peut pas comparer. Ouais, okay. Là, okay.
Avançons.
C'est pas du tout les mêmes projets.
Et puis c'est drôle. Mais Little n'est pas drôle.
Là où tu as raison, c'est que d'abord, quand je pense, quand on lit ce mot Smiley, ce nom. Qu'il a choisi il y a 30 ans.
Ah oui.
Quand on voit le devenir de ce mot.
Il avait de l'avance.
Smiley,
hein.
Oui. C'est quand même, on se dit, mais quel génie. Le personnage principal est fantastique parce qu'on comprend qu'il a été choisi pour ses capacités de séduction. C'est comme ça qu'il est devenu espion, c'est qu'il est un Don Juan. Il sort de sa Bretagne où il prend sa retraite. Il arrive dans un Londres qu'il ne reconnaît plus. C'est extrêmement drôle la manière dont John Le Carré parle du Londres d'aujourd'hui et de la nouvelle génération d'espions. Et la fin, la rencontre, dans les toutes dernières pages, avec Smiley, qui donne effectivement la solution. C'est-à-dire pourquoi ils ont fait cette chose a priori irrationnelle qu'est l'espionnage. Ils donnent, je vais pas le dévoiler, mais à l'heure du Brexit, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que là, il y a une intelligence aussi politique de John Le Carré qui est quand même extraordinaire.
À l'heure du Brexit et à l'heure des relations relations entre, aussi entre la Russie et la Grande-Bretagne.
Oui, n'oublions pas que l'espionnage, il y a de l'actualité.
Vite, Olivia.
Alors, ce n'est pas du tout mon genre et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un livre au charme fou qui raconte la lutte entre deux générations. C'est un livre extrêmement nostalgique, très drôle, avec des détails.
Drôle,
la manière dont il raconte son entrée dans les locaux aujourd'hui. Il dit que hier, vous aviez un concierge qui vous disait bienvenue et vous lui disiez merci, Mac ou Bill. Et aujourd'hui, vous avez une fille de 14 ans en survêtement qui prend une raquette de ping-pong pour surveiller que vous n'avez pas des objets dans vos poches. Je trouve que c'est un livre, oui, nostalgique, beau, ça vous prend.
Qu'est-ce que vous voulez, un espion anglais qui prend sa retraite en Bretagne?
Qui prend en Bretagne, ça ne peut pas être
c'est
mauvais.
Respect, hein.
Il était à moitié français.
Alors, bon, et puis en plus, c'est vraiment la lutte entre des gars magnifiques avec des Panamas et des jeunes avocats.
La femme, sa femme, Catherine, qui vit avec lui.
Et il dit des avocats épris de transparence, sandales babacou, les grandeurs d'âme admirables, tout ce qu'on déteste.
En plus, je trouve que c'est la force de la littérature, parce que ce roman-là, au cinéma, ça serait nul. Oui. Parce que ça serait bourré de flashbacks.
Oui. C'est ça la littérature.
C'est impossible.
Hein, c'est ça pourquoi...
C'est un très, très beau livre.
Bah, écoutez, je vais le reprendre alors, parce que j'avais arrêté en cours de route. Moi, j'ai commencé à m'ennuyer à partir du moment où...
Attends, tu préfères les mémoires au roman?
Moi, je préfère les mémoires, je trouve les mémoires beaucoup plus drôle justement et beaucoup plus poignante et beaucoup plus vivante et beaucoup plus moi je trouve les mémoires absolument géniales et là j'avoue que tout ce côté quand il y a des rapports à se fader j'ai pas pu, je trouve pas ça si drôle que ça. Je trouve que c'est un peu un vieux monsieur qui essaie d'être drôle. Bon, ça a marché sur vous, ça me rassure, mais pas sur moi.
L'héritage des espions, c'est ton seuil et c'est le 24e, j'espère que ce n'est pas le dernier, roman de John Le Carré. Et on finit avec un livre étonnant, détonnant, totalement fait main, si j'ose dire, et qui n'est pas sans me rappeler l'histoire du théâtre dessiné de feu notre ami André Degaine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait fait toute l'histoire du théâtre. C'est le masque et la plume d'ailleurs qu'il avait révélé, toute l'histoire du théâtre de manière manuscrite et aussi dessinée. Et ça allait du théâtre grec à aujourd'hui, vraiment, c'était formidable. Bref, là, c'est l'autoportrait de Paris avec chat, très important, et c'est signé Dany Laferrière chez Grasset, québécois, je le rappelle, né à Port-au-Prince et membre de l'Académie française, l'auteur de « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » et de « Comment conquérir l'Amérique en une nuit », propose en grand format la version donc calligraphiée, dessinée, colorée, de ce qu'on peut quand même appeler un véritable chant d'amour à Paris. Tout mon mérite, écrit Laferrière, vient du fait que peu de gens qui dessinent aussi mal que moi ont osé faire un livre de ce genre. Je recule ici, ça j'adore ça, jusqu'à l'enfance de l'art. Donc en compagnie d'un chat très bavard, il évoque le Paris de Balzac, d'Hemingway, de Vian, de Prévert, de Barthes, du Café de Flore, de l'Académie, où il a été élu au fauteuil de Montesquieu et d'Hector Bianchetti. Il parle même de la Circo d'Arnaud Vivian et il reproduit son éloge donc de Bianchetti sous la coupole en rappelant que dessiner est une autre façon d'écrire. Nelly ?
Moi j'ai adoré. Mais j'ai adoré, je suis complètement amoureuse de ce livre. Je le trouve génial. Et je trouve génial la fin, comme tu l'évoquais, où il dit que, comment il a fait ce projet, il lui dit ce projet, c'est quand un jour dans le métro, quelqu'un lui dit « Alors, monsieur Laferrière, vous allez nous faire un bon livre d'académicien maintenant ?» Et il a fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'il ne savait pas dessiner. Il raconte qu'il n'avait pas écrit, à part peut-être faire un chèque de temps en temps, il n'avait pas écrit depuis 20 ans à la main. Et tout d'un coup, il se lance dans ce projet, mais qui est complètement délirant, qui a un côté facteur cheval, quoi.
Il
s'invente des fausses mémoires, parce que moi je crois qu'il avait au départ, j'y croyais, enfin je pensais qu'il était vraiment venu s'installer à Paris, jeune, à Gare de l'Est, qu'il allait au Flore, un peu à la Enrique Villamatas dans Paris n'en finit jamais. Et c'est juste, je sais pas, c'est génial sa façon de voir Paris avec ce chat.
C'est pas des faux mémoires dans la mesure où il parle vraiment du Québec.
Il en parle à un moment donné.
Il a transposé son arrivée à Montréal à Paris.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pensais vraiment au début donc qu'il avait vécu très longtemps à Paris. Et toute cette façon de parler des contemporains, les mélanges à un moment donné, il y a Mabankou qui débarque habillé en sapeur. Enfin, j'adore. Et en parlant rappeur. De Colette, des Caves de Saint-Germain, des profs, enfin de tout, quoi. Il y a toute l'histoire de Paris, en fait, toute l'histoire culturelle de Paris.
C'est merveilleux à lire. C'est pas évident non plus à lire, il faut le savoir.
Non, non, faut prendre un peu.
Il faut prendre.
Ah, c'est rempli jusqu'à la gueule.
Oui, chaque page est grand format, c'est très serré en plus, comme écriture. Arnaud.
Ça m'a rappelé ma visite dans ce magnifique musée d'art brut de Lausanne. C'est la littérature brute, d'une certaine manière, comme on parle d'art brut. Ça m'a rappelé aussi les conversations que j'ai pu avoir avec ce vieil heideggerien qui est Solaire sur écrire à la main, écrire à la machine. Il y a un rapport là, parce qu'on voit bien ce côté rapport à la main, quoi. Bon, en même temps,
Solaire, s'il écrit à la main et il tape à la machine.
Oui, oui.
Mais machine mécanique, hein.
Voilà. Non, mais il y a quand même cette idée, voilà, de revenir à l'écriture manuelle, si on peut, voilà, et qui donne quelque chose. Parce qu'en fait, il était en train d'écrire un livre, c'est ce qu'il raconte à son éditeur. Et puis finalement, il fait
son éditeur, Olivier Nora, qui est chez Grasset, qui apparaît. Comme d'ailleurs tout le staff de Grasset.
Oui, Charles Dancy, son autre éditeur.
Voilà, les locaux de Grasset. Il y a plein d'idées extrêmement drôles. Mais on savait que Daniel Laferrière est un drôle d'écrivain et un écrivain drôle. Il a réussi en même temps, quand même assez malin, à mettre les deux mots qui font le plus vendre de livres dans son titre. C'est-à-dire le mot Paris, qui fait énormément vendre. Et surtout le mot chat, là, qui normalement emballe toutes les ventes.
Donc,
fou, l'académicien. Bon, après... comment dire, c'est exactement ce qu'on dit là. N'essayez pas de faire ça chez vous, parce que si vous envoyez votre manuscrit à la main aux maisons d'édition, vous êtes sûr que là personne va le lire. Mais il y a il y a quelque chose. Il y a une fantaisie,
qui
rompt un peu avec les habitudes du marché.
Sauf les pages sur l'Académie française qui sont assez respectueuses. C'est pas de la révolution.
Non, mais il y a des choses aussi très convenues. Il y a des moments de folie, puis il y a des choses beaucoup plus convenues sur, je sais pas, sur Boris Vian, etc. Enfin, pour nous,
Cafés existentialistes. Oui. Olivia.
Oh ben moi, j'aime la liberté, j'aime le mélange de genres. J'adore la manière dont il se représente, lui. Il se représente quand même comme un grand blond, ce qui est quand même génial.
C'est l'autre Le Clésio de la soirée.
Tout marche, cette espèce de mélange de poésie, de souvenirs. Et dans les pages sur Boris Vian, justement, il y a la rencontre entre Boris Vian et Queneau au Café de Flore. Et Queneau dit « Les lecteurs font de mauvais écrivains ». Et ben, je trouve que Daniel Laferrière est la preuve du contraire. Parce que c'est un livre de lecteurs, c'est un livre d'admiration, en fait, pour tous les gens qui l'ont fait écrivain. Et je trouve que ça marche.
Ouais.
Et même dans les scènes qu'on connaît déjà, peut-être nous, en tant que Français ou Parisiens, il introduit un grain de folie. Parce que quand il raconte, par exemple, la scène de rencontre entre Jean Seberg et Godard, et tout d'un coup, il dit « Jean Seberg va jouer, d'ailleurs, dans l'adaptation de « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », qui est son livre écrit 30 ans après. Et comme si de rien n'était, je trouve ça absolument formidable. Et pour le coup, je trouve ça vivifiant. Tout ce que je n'ai pas trouvé chez Little, de folie, eh bien, je l'ai trouvé là.
Chez Le Clésio.
Il aime la répétition, Little, moi aussi.
J'ai eu un peu de mal à lire les phrases.
Oui, non, mais encore une fois, c'est pas évident.
Ça n'a pas été évident pour moi. Ça n'a pas été un bonheur continu, je dois dire.
Faut
quand même pas mal convenu dans beaucoup d'endroits. Oui, c'est bien, c'est une fantaisie, effectivement, c'est une fantaisie, mais... Je n'ai pas été dans l'éblouissement, non.
Eh bien, c'est le livre de Daniel Laferrière, grand format, dessiné, je le rappelle, et manuscrit, et ça s'appelle « L'autoportrait de Paris avec chat ». On a tout à fait le temps de conseiller un roman, des poèmes, une pièce de théâtre, ce que vous voulez, qui est trait à la littérature. On va commencer avec Nelly.
C'est trait à la littérature. Tu veux dire un livre?
Non, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi une pièce de théâtre. Ça peut être
un film. Ça...
Mais oui, bien sûr.
Soyons libres. Non, mais
quand
scolaire,
on sort,
j'ai prévu un livre.
Quand on sort du Daniel Laferrière, tout est possible.
Tout est possible.
Franchement.
Écoute, bon, moi, je voulais parler du livre de David Gran, La note américaine Globe, aux éditions Globe, qui est extraordinaire.
Qui est une histoire incroyable.
Une histoire absolument incroyable.
Alors, David Gran, pas facile à raconter, mais.
Grand reporter au New Yorker qui a enquêté, qui a réouvert une enquête classée à l'époque sur les meurtres des Indiens Osages, qui étaient des Indiens parqués donc au début du XXe siècle aux États-Unis. Les Blancs américains les ont envoyés vivre sur une zone de caillasse en disant bon, ils mourront de faim un jour, on va les laisser crever sur leur caillasse. Or, il y avait du pétrole. Ils sont devenus millionnaires. Et là, à un moment donné, ils commencent à mourir les uns après les autres. Il y a des meurtres. La police n'y arrive pas.
C'est la naissance du FBI.
Et
hein.
Hoover, envoie un vieux cowboy, une sorte de vieux cowboy, qui va être en effet un agent du FBI. Et c'est la naissance du FBI. Et le FBI a pu continuer, parce qu'au départ c'était une cellule un peu expérimentale, a pu continuer en s'appuyant sur le fait qu'ils avaient résolu cette histoire de meurtre. Mais alors, ce que dévoile David Grahn, c'est que ça a été bien plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu... on parlait de racisme. Enfin, là, c'est terrifiant. C'est terrifiant, parce que ça dit sur l'inconscient américain.
Et c'est passionnant à lire.
C'est terrifiant. Et l'enquête est magistrale. Ah, grand journaliste, David Grahn.
David Grahn, tu rappelles le titre ?
La note américaine. Chez Globe Édition.
Chez Globe. Le conseil de Michel.
Alors moi, je voudrais vous recommander...
Recommande-nous.
Un roman de Julie Marx. C'est un premier roman aux éditions de L'Olivier qui s'appelle... La journée de la Vierge, j'espère que je ne me trompe pas.
Tu ne te trompes jamais.
Non, c'est vrai. C'est très étonnant, c'est très, très étonnant, c'est très électrique, c'est une sorte de description d'époque, du monde dans lequel nous sommes. Et cette fille est prodigieusement douée, elle va aller loin, je pense, enfin, j'espère. Et ce livre est...
Avec un nom pareil, elle peut aller très loin.
Elle peut aller très loin.
On risque de...
C'est pas de sa faute.
Est-ce que je l'aime déjà. Hein.
Est-ce que vous avez lu Marx, vous les uns et les autres? Donc, c'est à l'Olivier le titre.
La journée de la Vierge.
Mon conseil, c'est un livre qui s'appelle « Partie gratuite ». C'est signé Antoine Audouard, chez Robert Laffont. Audouard, l'auteur d'Adieu, mon unique. En 2012, il avait alors 58 ans. Il a été victime d'un AVC massif. Et il s'est retrouvé avec tout le côté gauche de son corps paralysé. Et ce livre qu'il a écrit avec l'index droit, uniquement avec l'index droit, comme Bobby avait fait le sien.
Avec sa paupière.
Avec sa paupière. Et le récit, il a eu quand même de la chance, parce que je crois que seul 20% réchappe de cette forme-là d'AVC. C'est le récit donc de son retour à la vie, qu'il aurait pu d'ailleurs intituler « Réparer le survivant ». Et ce qui est étonnant, évidemment, c'est que c'est... Ça pourrait être sinistre et c'est très drôle. Il y a des choses très drôles et en même temps formidablement combatif, puisqu'il s'en est, je le dis, très bien sorti. Partie gratuite, c'est Antoine Audouard et c'est chez Robert Laffont. Olivia.
Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai même adoré le dernier livre de Daniel Pennac qui s'appelle Mon frère. Daniel Pennac a perdu un de ses frères et puis il a tenté d'écrire sur lui et il n'y arrivait pas. Peut-être parce que c'était une famille de taiseux. Il y avait peu d'effusion, peu de mots qui étaient échangés entre les frères. Et c'est en jouant sur scène le livre de Melville, Bartleby, qu'il a commencé à réussir à écrire sur son frère et à en percer le mystère. Parce que le fait de parler comme ça sur scène de cet être qui disait non, alors que son frère était aussi quelqu'un qui disait non aux conventions sociales, au travail, à la fin de sa vie. Et tout d'un coup, il réussit à en percer le mystère. Je trouve que c'est un livre très délicat, très singulier et très beau.
Arnaud.
Chez Gallimard.
Un peu de poésie dans ce monde de brut. L'été dernier, Frédéric Boyer perdait sa compagne, Anne Dufour-Montel, écrivaine et psychanalyste.
Dont on a publié un roman historique posthume, oui, chez Albin Michel.
Chez Albin Michel. Elle s'est noyée et donc Frédéric Boyer a écrit quelques petits poèmes sous ce titre que je trouve magnifique, peut-être pas immortel. Et il décrit ce livre comme un petit livre peint dans la nuit totale. Je veux dire, par rapport à tous ces livres qui on a le sentiment quand on les lit qu'ils veulent passer à la télévision, là voilà, c'est un livre qui essaye de passer à la consolation et il est tout petit, il fait quelques 80 pages. On peut le promener comme ça avec soi et franchement, c'est d'une beauté à pleurer évidemment, mais c'est très fort quoi. Frédéric Boyer.
Chez
Peewal.
Qui remplace maintenant.
C'était Frédéric Boyer qui est maintenant le nouveau patron des éditions Peewal, puisqu'il a, après la disparition de son fondateur et directeur Paul Otchakowski. Laurence, on rappelle le titre, peut-être pas
immortel de Frédéric Boyer. Donc ce sont des textes poétiques très courts et très, très forts.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Nelly Capriélian, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian et Michel Crépu.
pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir à la technique, et je le remercie, Philippe Duclos ainsi que Didier Lagarde pour la réalisation de cette émission. Prochain enregistrement du masque, eh bien ce sera le jeudi 5 avril. Je vous attends à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma, l'autre au livre. Dans une semaine, on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.